Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Monif Bosso. Il est journaliste et il est correspondant en RDC de la radio transéquatoriale, une radio panafricaine. Bonjour Monif Bosso.
Bonjour, cher François Maté, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Madame Aimé Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle. Elle est chef d'équipe au cadre des consultations de la société civile de la province du Lualaba. Bonjour, Madame Aimé Magnong.
Bonjour, Monsieur Maté. Bonjour, tout le monde. Merci.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Bonjour Christophe Châtelot.
Oui, bonjour Guy Maté, bonjour aux auditeurs.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes d'un regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Monulfe Bosso. Il est journaliste et il est correspondant en RDC de la radio transéquatoriale, une radio panafricaine. Madame Aimé Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle. Elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile du Lualaba. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Au menu de cette émission, les défis sécuritaires que la nouvelle première ministre de la RDC doit relever, le retard très considérable pris pour la mise en place du gouvernement Judith Suminwa, et enfin, comment pallier à la discrimination des femmes du secteur minier artisanal en développant les activités économiques alternatives. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la hausse de la criminalité dans la ville de Goma. En effet, 8 personnes ont été tuées par balle en l'espace de 2 jours dans la ville de Goma, au nord Kivu, rapporte des sources locales. 4 des victimes ont été abattues dans la nuit de mercredi 10 avril à l'entrée de la place dite entrée président sur la route Sake. Mardi 9 avril, 4 autres personnes ont été abattues par des hommes en uniforme de l'armée au quartier populaire Majengo. Selon des témoins, l'auteur de ces homicides serait un militaire de FRDC. Vu la gravité de la situation, Jean-Paul Lumbulumbu, député honoraire, appelle à une intervention urgente du gouvernement provincial. Il déplore l'intensification de la criminalité urbaine. Que ce soit la nuit ou pendant la journée, on assassine et on tue dans la ville comme s'il n'existait pas d'autorité, dit-il inquiet. Monif Bosso, est-ce que cette hausse de criminalité n'était-elle pas prévisible quand on sait que Goma, c'est une ville où cohabitent plusieurs forces armées, parmi lesquelles celles qui, n'est-ce pas, échappent totalement au contrôle du gouvernement provincial? On parle souvent des Wazalendo et de quelques éléments FRDC incontrôlés. Est-ce que cette situation n'était pas prévisible?
Oui, je pense bien que c'était une situation prévisible, effectivement, mais au regard de cela, parce que nous sommes des civils, mais si nous voyons déjà que ça constituait déjà un danger, et ça constituait au même moment le danger, donc il faudrait bien que ceux qui sont des spécialistes en la matière devraient prendre des dispositions, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une ville très militarisée, ou hypermilitarisée, où se côtoient une multitude de corps armés, notamment les FRDC, qui sont les forces loyalistes. Vous avez les Wazalendo, les jeunes patriotes là, qui sont alliés au gouvernement congolais. On parle même des instructeurs roumains qui sont du côté du pouvoir en place. Il y a la force de la MONUSCO, il y a les contingents de la SADC qui sont là, et mais c'est cette ville-là où il y a l'insécurité. Donc, ça dépasse tout entendement. Moi, j'étais surpris. Quand j'ai suivi à travers le média tous ces crimes qui ont été commis par ces gens où on pouvait abattre des gens, donc les paisibles citoyens comme ça, même pendant la journée. Et là, c'est quelque chose qui fait peur. Mais quand on suit un peu ce que le maire de la ville, le maire, le policier de la ville, qui a dit que c'est une entreprise bien organisée qui a pour but de semer la panique et la terreur dans la population. Ah, mais on le savait. Mais pourquoi ne pas prendre des dispositions utiles justement pour empêcher à ce que cela ne puisse pas se commettre? Mais lui-même, le maire, dit que cette œuvre-là, selon lui, c'est l'œuvre des soldats déserteurs. C'est l'œuvre des Wazalendo, c'est l'œuvre également des policiers et militaires qu'il a qualifiés d'incontrôlés. Mais la guerre là est juste à la porte de Goma, c'est à 27 kilomètres simplement. Mais parmi les causes, on ne cite même pas l'ennemi. Parce que selon moi, je pense bien que, outre ce que le maire policier de la ville a dit, il faut reconnaître que, en tout cas, l'ennemi aussi pourrait être derrière ça. Semer la psychose, semer la panique dans le chef de la population pour pousser la population à dire que non, nous ne sommes pas sécurisés, le gouvernement nous a abandonnés. Imaginez qu'on tire même des obus qui viennent tomber dans les camps où se trouvent les déplacés de guerre. Mais non, mais ça c'est trop quand même. Donc on devrait en principe organiser des patrouilles nocturnes et diurnes pour que la population soit sécurisée. Si on le faisait, je pense bien que ça pouvait dissuader ceux qui sont des mèches avec nos ennemis, parce qu'ici, j'ai qualifié aussi ceux qui commettent ces crimes-là comme étant des mèches avec les ennemis de la République. Alors, je peux interpeller et le gouverneur et le maire policier de la ville pour qu'on essaie un peu de prendre des mesures pour sécuriser la population. Voilà, c'est un peu ce que moi je peux dire par rapport à la situation qu'on connaît à l'est de notre pays.
Merci, Madame Emmanuel. Justement, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui peuvent profiter de ces contextes pour opérer en se faisant passer pour des militaires?
Effectivement, c'est la question que l'on se pose. Avoir la manière dont l'insécurité est en train de prendre de l'ampleur dans la ville de Goma et dire que c'est dans un état de siège, les questions qui reviennent sur les lèvres de tous les Congolais, c'est qui se cache réellement derrière ça. Donc la République démocratique est en train de faire face à trois fronts de guerre, tel qu'on le constate maintenant, parce qu'il y a la guerre des agresseurs, la guerre de la rébellion, la guerre du banditisme urbain, avec tout ce qu'on a comme massacre. Qui est la main noire derrière cet état des choses qui est en train de semer la panique, semer la mort, la désolation dans le camp des Congolais? Et sûrement, nous croyons que nos ennemis ne baissent pas les bras pendant que nous, on réfléchit au processus des dialogues pour mettre fin à cette guerre, mais il y a ceux-là qui sont résolus de vouloir semer cet état des choses, c'est cette guerre, cette insécurité qui est en train d'endeuiller les familles et de mettre vraiment le processus démocratique en péril.
Merci Christophe Châtelot. Comment peut-on endiguer cette criminalité dans une ville où cohabitent plusieurs armées avec différents commandements?
Est-ce qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire l'origine sans doute de ces violences et le rôle des différents groupes armés non étatiques, comme on a l'habitude de les appeler, donc les milices, les groupes d'autodéfense qui ont une place centrale que le gouvernement central de Kinshasa leur a accordé, en s'appuyant, en créant cette alliance et ce mouvement des Wazalendo, en passant tissant des alliances sur le terrain avec ses différents groupes en fonction des zones qu'il contrôle. On sait très bien, puisque ça date depuis la guerre du Massissi, depuis 1993, cette situation-là. Des armes sont distribuées aux civils, sont distribuées aux différents groupes. L'État central, espérant s'appuyer sur eux, compte sur eux pour des interventions militaires, mais on sait très bien aussi que l'État leur est redevable après. Ils ne font pas ça gratuitement. Je pense que parler d'un grand mouvement patriotique, peut-être qu'il y en a qui sont motivés par ça, mais il y en a beaucoup qui sont motivés par intérêt et par le pouvoir qu'ils exercent d'une façon de plus en plus forte sur les territoires qu'ils contrôlent. Goma devient un terrain de chasse comme les autres. Comment maintenant remettre sous contrôle ces groupes auxquels on a laissé la bride sur le cou, ça va pas être simple du tout.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Pitié de Rochereau Taboulé et on revient juste après. Seigneur Taboulé Rochereau, le premier musicien africain à s'être produit à l'Olympia de Paris, c'était le 21 décembre 1970. Taboulé nous a quittés il y a de cela 10 ans. Paix à son âme. On revient à côté de cette semaine. Nord Kivu suit la ligne des fronts, règne un calme précaire depuis 3 jours déjà sur l'ensemble des lignes des fronts sans le territoire des Masisi et Rutshuru. C'est après des combats mardi et mercredi, notamment aux alentours du village Chacha, un groupement des Mufuni Changa, territoire des Masisi, où les 10 combats avaient opposé des groupes armés locaux aux rebelles du M23, précisément autour des collines de Ndumba et Mouré-Mouré. D'autres combats ont opposé mardi les mêmes forces autour du village Bihambwe dans les mêmes territoires. Nos sources ne mentionnent aucune avancée des 2 forces belligérantes. Les rebelles sont toujours autour des Sake-Chacha, voire sur les autres positions en territoire des Rutshuru, alors que les FRDC et les groupes armés locaux occupent leurs mêmes positions. Christophe Châtelot, vous êtes journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Vous avez souhaité nous parler des défis sécuritaires que la nouvelle première ministre de la RDC doit relever. Et vous voulez répondre à la question de savoir pourquoi est-ce si difficile d'offrir une solution politique négociée avec les différentes parties alors que les violences se poursuivent à Ituri, Nord Kivu et dans les Maïndombé. On vous écoute.
Oui, ce sont plus des questions d'ailleurs que je n'apporterai de réponse. Ce n'est pas cette prétention, restons humbles. Mais force est de constater que l'incendie continue de se propager. L'incendie sécuritaire, l'incendie des violences, vous l'évoquiez dans Nord Kivu, en énumérant les faits qui sont succédés ces derniers jours, même s'il y a en effet une petite accalmie, mais on a vu tous ces derniers temps que ces accalmies sont généralement et malheureusement de courte durée. Donc le Nord Kivu, la situation ne s'arrange pas. On a vu que dans le Maïndombé, un accord sitôt signé, finalement, l'encre est à peine sèche, que des violences ressurgissent. Quant à l'Ituri, on a l'impression que la situation est absolument hors de contrôle. Alors, la question qui se pose et qui va se poser au futur gouvernement, qui serait un de nos interlocuteurs, abordera le sujet. Il serait bon tout de même que tous ces dossiers soient remis sur la table. Ils ont répondu tous à des ressorts différents, donc ce n'est pas une solution globale qui peut être apportée, mais il serait sans doute temps de s'asseoir dans ces différentes régions autour d'une table et de commencer à discuter. Alors sur le Nord Kivu, on voit que c'est compliqué. Les mouvements diplomatiques auxquels on a assisté ces dernières semaines, on a eu l'impression qu'il y avait une petite montée des pressions sur le Rwanda de la part de la communauté internationale, forme d'activisme aussi du côté de Kinshasa. Là aussi, on ne peut pas dire aujourd'hui que tout cela est bougé et que les choses aient avancé. Et quand on écoute et qu'on regarde ce qui se passe du côté de Kigali, on voit et on a le sentiment que Paul Kagame et son régime sont plutôt sur une ligne jusqu'au boutiste et qu'ils n'ont pour le moment aucune intention de négocier quoi que ce soit. Donc, Quelle solution trouver alors que le tout sécuritaire qui a été l'axe choisi par Kinshasa ces derniers mois, je veux dire même ces dernières années, va dans le mur. Comment inventer une nouvelle voie pour rétablir le dialogue, pour que les différentes parties, encore une fois, qui ont des intérêts différents, divergents, d'où cette explosion de violence, puissent discuter ensemble, acceptent déjà de se réunir et de discuter ensemble, ce qui serait un premier pas. Pour l'instant, on n'en voit pas le début du commencement pour ce qui concerne le Nord Kivu, et j'allais dire aussi pour l'Ituri avec les Comeco et les ADF. Donc situation bloquée. Et là où c'est un petit peu inquiétant, c'est que les efforts qui ont été faits pour le Maïndombé, qui ont été salués par un certain nombre de partis, là aussi, on a l'impression que c'est pas suffisant, qu'il y a eu des annonces, qu'il y a un document qui a été signé, que des chefs coutumiers se sont réunis, ont échangé, ont parlé, ont essayé de trouver des solutions, mais ce n'est que le début de l'amorce. Tout le travail à faire pour arriver à rapprocher les 2 parties reste à faire. Est-ce que la première ministre a cette volonté? Quelle est sa feuille de route? Pour l'instant, on n'en sait rien, et c'est là où ça devient problématique, quand même, cette forme de vacances du pouvoir, ou alors que la présidence annonce et décide de prendre tout ça en main, au titre comme en France, du domaine réservé, si on veut, de la part de, et que ce soit la présidence, que tout soit réglé. Mais là, on a franchement l'impression que les choses sont laissées à elles-mêmes, sont laissées évoluer, évoluent chacune de leur côté, et le résultat est pour l'instant toujours le même, à savoir que les populations civiles sont les premières victimes de ces violences.
Christophe?
Oui.
Oui, justement, au sujet du Nord Kivu, est-ce que vous comprenez le fait que tous les partenaires de la RDC sur le plan sous-régional et sur le plan africain et même au-delà, tous semblent penser que cette crise de l'Est ne peut avoir d'autre solution que la solution politique, hein, et même le président sud-africain, dont les militaires sont déployés au Nord Kivu dans le cadre de la SADC, a affirmé récemment que la solution ne peut être que politique. Est-ce que vous comprenez cette position des partenaires de la RDC?
À partir du moment où sur le terrain, la solution de force n'a pas abouti, n'est pas allée jusqu'au bout, ça dure depuis des années. Et à partir du moment où il y a un échec des deux parties, je pense que ni du côté du M23 / Rwanda ou du côté FARDC Wazalendo, aucune des deux parties n'est capable de l'emporter d'une façon claire et définitive sur le terrain. Goma est, si ce n'est encerclé, en tout cas ses voies d'accès sont contrôlées, coupées par le M23. Est-ce que le M23 pourrait tenir la ville? Je ne suis pas un spécialiste d'affaires militaires, mais je pense que la plupart des gens considèrent que ce serait intenable. Et sur le plan militaire sécuritaire pour le M23 et le Rwanda, et intenable sur le plan diplomatique et politique. Donc, partant de là, et encore une fois, il s'agit de revenir aux sources du conflit, aux problèmes fonciers, aux problèmes de ressources naturelles, aux problèmes entre agriculteurs et éleveurs, problème des personnes réfugiées, soit réfugiées au Rwanda ou réfugiées en RDC. Il y a des questions et des problèmes à résoudre. Et ce n'est pas par les armes qu'elles peuvent être résolues. Donc, et en plus, je pense au niveau de la communauté internationale et des partenaires du Congo, personne n'a envie d'aller mourir pour la RDC. C'est malheureusement la vérité. Personne ne veut aller se battre sur ce terrain particulièrement compliqué. La situation, il y a à la fois cette prise de position de raison, il faut discuter, il faut trouver une issue politique, et deux, aussi, la réalité du terrain qui fait que comment inverser le rapport de force et qui aurait suffisamment de force et de pouvoir pour imposer sa loi. Il n'y a pas de réponse pour l'instant.
Merci, Manuel Fobosso. Vous êtes journaliste et correspondant en RDC de la radio transéquatoriale, une radio panafricaine. Qu'est-ce que la RDC devrait-elle faire face à toutes ces pressions lui demandant de privilégier une solution politique, surtout quand on sait que une solution politique est aussi fonction, n'est-ce pas, des rapports des forces sur le terrain?
Oui, moi je pense bien que nous sommes plutôt, nous, RDC, victime d'une injustice de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que c'est cette même communauté internationale qui soutient le Rwanda. Parce que vous savez que le Rwanda n'a pas de ressources pour faire la guerre. Et regardez-nous, un grand pays, la RDC, nous avons toutes les ressources nécessaires. Mais vous voyez que aujourd'hui, avec l'effort de guerre, nous connaissons quelques petits soucis. Les fonctionnaires sont payés un peu en retard, jusqu'au 10, 12, 13, ils sont encore au niveau des banques pour prendre de l'argent. Pourquoi? Parce que on a versé cet argent un peu en retard, il faut les reconnaître. Mais les Rwandais là-bas, rien du tout. Donc c'est une injustice. Pourquoi la même communauté internationale qui nous demande de négocier avec nos agresseurs, pourquoi elle ne pourrait pas demander la même chose à l'Ukraine qu'elle soutient de tout le moyen de négocier aussi avec la Russie? Parce que la Russie fait la même chose que le Rwanda. Parce que pour nous, ce qui se passe en Ukraine là-bas, c'est ce qui se passe aussi chez nous avec les Rwandais. Donc vous voyez un peu cette attitude de deux poids, deux mesures de la part de la communauté internationale. Et vous savez que aujourd'hui, parce que les confrères qui viennent de parler, il a parlé des revendications de foncières, des, je sais pas moi, et d'autres, tant d'autres revendications, mais cette M23 a été, en tout cas, ressuscité par le Rwanda, vous le savez, alors que le M23 a été battu à plate couture et s'est trouvé de l'autre côté, c'était en Ouganda et tout comme aussi au Rwanda. Donc on ne parlait plus de ça, mais c'est parce que les Rwandais ont des agendas cachés. Notamment, ils voudraient bien qu'on revoie, il faut revisiter des frontières issues de la colonisation. Vous voyez, l'intangibilité des frontières là pour les Rwandais, ça n'existe pas. C'est ça le problème. Et puis, quand ils demandent ça, c'est justement pour qu'ils viennent dans notre territoire, prendre une partie de notre territoire, profiter plutôt de tout ce qui se passe là, pour nécessairement, au fait, piller nos ressources. Quand on nous demande une solution politique, c'est-à-dire il faut dialoguer. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, les gens sont allés à Saint-City, c'était pourquoi? Et plusieurs fois, il fallait les mixages, il fallait les brassages. Pourquoi? Parce que il faut que nos appareils de défense et de sécurité soient vraiment infiltrés par ces Rwandais et comme ça, ils nous maintiendraient dans cette situation. Pour moi, je pense bien que le gouvernement ne doit pas accepter. Si on, parce que les confrères ont parlé même de ces conflits-là du côté des Maïnomé. Mais ça, c'est inter-congolais. Il y a les Tékés qui sont des Congolais et les Yaka, ce sont des Congolais. Donc, il n'y a pas de problème. Vous voyez que quand on les a fait asseoir, ce sont des choses peut-être qu'on n'a pas pris tout le monde en considération. On peut l'arranger entre les Congolais. Mais là, c'est une affaire, c'est une guerre d'agression. C'est connu de tout le monde. Mais vous voyez que ces mêmes puissances-là, qui ont dit que la Russie est là, parce qu'on a vu la Russie, ils ont vu le Rwanda avec leurs missiles sol-air sur le territoire congolais, parce que la rébellion ne peut pas s'en procurer. Bon, au lieu de condamner, on ne condamne pas, on dit simplement qu'ils sont là. Mais il faut condamner. Et quand vous condamnez, vous devez sanctionner. Ils ont sanctionné la Russie, pourquoi ils ne le feraient pas avec le Rwanda?
Merci.
Donc ça, pour moi, je ne suis pas d'accord. Je pense bien que pour terminer, nous devons vraiment arrêter de tout faire. Arrêtez, non, il faut faire ceci, il faut les routes à gauche, à droite, laissez tout, prenez cet argent, mettez ça dans l'achat des armes. Combattons ces gens-là, il faut les chasser. Parce que si nous allons au dialogue là-bas, comme on dit, bon, tel, non, personne n'a gagné, ceci, cela, dialoguons. C'est pour qu'ils se retrouvent ici, après avoir tué, après avoir massacré, après avoir violé. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est répétitoire et nous ne pouvons pas continuer à être des lèches-bottes de ces gens. Voilà, c'est ça.
Merci.
Mon point de vue.
Merci, Madame Magnongo, coordinatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme Repart en sigle. Vous êtes chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. La RDC est-elle actuellement dans une posture pouvant lui permettre de trouver gain de cause si elle privilégiait une solution négociée en ce qui concerne justement la partie est du pays, donc précisément le Nord Kivu?
Merci beaucoup, Monsieur Maté. En relations internationales, on dit que les relations entre les États ne sont pas basées sur les sentiments, c'est basé sur les intérêts. Donc dire qu'il n'y a pas d'amitié dans les relations ou les rapports entre les États, c'est plutôt les intérêts qui comptent. Et partant de cette logique, je me dis la RDC a beaucoup à gagner en gardant sa position de ses leaders sur plusieurs plans qu'il présente. Mais la communauté internationale, comme on l'avait dit dans les émissions passées, qui a besoin d'exploiter nos ressources à l'est du pays, sont en train de faire croire à la RDC qu'elle n'a pas, elle n'est pas en position de pouvoir négocier. Ils sont en train de considérer la RDC comme un bien commun que tout le monde pouvait avoir part sans être inquiété et même dans la stricte violation des droits humains. Et moi, je me dis, la RDC doit enlever les sentiments parce que on a essayé tout ce qu'on a pu faire. On a négocié, on a parlé par le temps passé et on était arrivé, je crois, en 2013 à une cessation des hostilités. On a calmé cette situation. Si ça rebondit, c'est que quelque part, il y a eu une irresponsabilité de notre part. Donc la RDC doit arrêter de se victimiser, de prendre ses responsabilités en main, voir comment capter toutes les ressources que nous avons en interne, parce que les moyens, il y en a en RDC, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Et aussi, comme l'embargo est levé, je parlerai comme mon prédécesseur, qu'on puisse investir beaucoup plus dans l'équipement de nos troupes au front, de renforcer les conditions de nos militaires, de nos phares d'essai, pour qu'ils puissent mener la guerre. On sait que le rideau qui est devant nous, on nous présente le Rwanda, mais c'est pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays, ça représente même pas la province du Katanga, ça représente même pas la province du Kasai ou même pas la ville de Kinshasa. C'est ce petit. Et aussi sur le plan de sa superficie, autant elle est petite aussi sur le plan de la puissance économique et tout ce qu'on veut. Mais la RDC, cette géante au centre de l'Afrique, se voit victime d'un si petit pays. Moi, je pense que la RDC doit arrêter d'entrevoir des solutions avec beaucoup de sentimentalisme, avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'esprit de se dire je suis victime, je crie à gauche, j'appelle au secours à la communauté internationale. C'est cette même communauté internationale qui est en train de jouer un double jeu. Donc vous allez appeler quelqu'un à être jugé parti dans un problème comme celui-là. Moi je pense que non, la RDC doit s'assumer, la RDC doit prendre ses responsabilités. Nous sommes un État souverain, nous avons des moyens, c'est question juste d'être un peu sérieux vis-à-vis de nos responsabilités, vis-à-vis de notre mission, vis-à-vis de la vie de nos concitoyens qui sont en train de souffrir à l'est du pays.
Merci.
Moi, j'ai dit, on n'a pas à se victimiser, prenons les choses en main, prenons nos responsabilités, et si c'est la voie politique ne nous apportera rien.
Merci.
À l'instant, au niveau où nous en sommes, la solution politique n'est plus envisageable pour des solutions durables.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Amani du reggaeman congolais Mac El Sambo, chanson à travers laquelle Mac El Sambo plaide pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la partie orientale du pays. On écoute donc Amani, on revient juste après.
Amani, 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 Amani. Hatuwezi fika mashambani, maisha yetu yamekuwa tabani. Tunauawa, tunachinjwa, tunabakwa. Dunia nzima ya nyamaza, hawasemi kitu. Mambo haya yaishe, amani ya kudumu ikae. Twa amuru usalama, yenyamaze silaha, maisha tupate raha. Viongozi wa nchi, mumalize hizi mavita. Mkongomani naye aishi katika amani. Mkongomani naye afaidike na mali ya nchi yake. Tunaomba amani ikae, waasi wote waweke silaha chini.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons analysé la hausse de la criminalité dans la ville de Goma. Nous avons également parlé des défis sécuritaires que la nouvelle première ministre de la RDC doit relever. Participe à cette émission, Monique Bosco, il est journaliste et il est correspondant en RDC de la radio transéquatoriale, une radio panafricaine. Madame Aimée Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme Repas Sensible. Elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Formation du futur gouvernement, la première ministre consulte les leaders de l'Union sacrée de la nation, plateforme de la majorité présidentielle. Jeudi dernier, à Kinshasa, Judith Suminois a reçu tour à tour Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, Modeste Bahati de l'AFDCA, Jean-Pierre Bemba du MLC et Vital Kamerhe de l'UNC. Ce dernier a déclaré à la sortie de cette audience, je cite, « Nous pensons que notre pays, avec ses ressources naturelles et humaines, si nous donnons la chance de gouverner à Madame Souminois, sans beaucoup d'interférences, elle va apporter les changements. » Fin de citation. Monil Fobosso, vous avez souhaité nous parler de ce que vous qualifiez de retard très considérable pris pour la mise en place du gouvernement Judith Souminois. On vous écoute.
Oui, cher ami, vous voyez que le chef de l'État a prêté serment depuis le 20 janvier, si ma mémoire ne me trahit pas, depuis le 20 janvier. Et aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, je pense bien que il ne nous reste qu'une semaine pour que nous totalisons 3 mois. 3 mois, alors qu'on devrait penser déjà à évaluer les 100 jours du chef de l'État. Malheureusement, ici chez nous, on s'amuse encore, ça il faut le dire. Toutes les institutions sont en panne. Donc, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les gouverneurs de provinces, donc les exécutifs provinciaux, rien, alors rien ne fonctionne. Sinon, c'est constitué que de ceux qu'on peut appeler aujourd'hui des démissionnaires. L'Assemblée nationale est à la base de tout ça. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale est bien sûr installée, mais le bureau qui est constitué de 7 personnes qui doit la gérer, n'a pas été désigné. Mais la cause, c'est quoi? C'est la guerre entre, je dirais même, je qualifierais cette guerre de guerre des tranchées, entre plusieurs candidats qui sont là, qui voudraient bien prendre la présidence, gérer cette institution parlementaire. Et parmi ceux qui sont en vue, 3 émergent du lot. Il s'agit bel et bien de Mbosso lui-même, président sortant et le président d'âge, qui veut rester là. Il y a Bahati, Modeste, qui lui, c'est un ancien président du Sénat, maintenant il est député national, il voudrait bien lui aussi présider le bureau l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'il est député. Et il en est de même pour Vital Kamerhe. C'est un ancien, disons, colistier de l'actuel chef de l'État, mais lui aussi, par le passé, il a eu à diriger cette institution parlementaire. Donc, tout le monde veut être là, mais on se préoccupe peu de ce que vit le pays, notamment la guerre à l'est de notre pays. Les gens sont encore dans des conciliabules. Ah, moi, je dois prendre tel ministère, il faut tel, il doit être à tel endroit, alors que nous avons des problèmes sérieux. Je prends le cas du Sénégal. Dans moins d'un mois, ils ont, le chef de l'État a prêté serment, le premier ministre a été nommé, il y a eu passation de pouvoir ou passation de service entre l'ancien et l'entrant. Donc, vous voyez, maintenant, ils se mettent déjà à penser. Et il y a un gouvernement qui a été mis en place, un gouvernement très réduit. Mais regardez-nous, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, le format autrefois, c'était de 58 ministères. Maintenant, on réduit seulement, on enlève seulement 8. C'est comme si il n'y avait rien comme problème dans notre pays. Il y avait rien, alors que nous avons la chaîne d'agression.
Monil Fobosso,
oui.
Oui, justement, dans ce contexte, dans un environnement politique où on cherche à satisfaire tous les alliés, comment, à votre avis, les choses peuvent aller rapidement?
Ça ne peut pas marcher comme ça, parce que s'ils sont conscients, je pense bien que ils peuvent. Tout le monde n'est pas appelé à être dans le gouvernement. Il y a d'autres postes. Mais si vous aidez, vous n'avez pas aidé les chefs d'État, vous avez aidé les pays. Vous avez aidé les pays pour que le chef puisse avoir une majorité. Est-ce qu'il faut toujours en contrepartie? C'est ça le mal ici chez nous. Donc, parce que j'ai dit que non, nous sommes ceci, nous sommes cela, même si on n'a qu'un seul député, on s'est dit on doit prendre part au gâteau. Est-ce que vraiment gérer les pays, c'est un gâteau qu'il faut se partager? Je pense bien qu'on pouvait, à mon sens, avoir un gouvernement très, très, très réduit au regard de ce que nous avons à l'est du pays. Et comme ça, nous pourrions avoir un gouvernement très efficace pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons gérer le pays. Donc, le pays, aujourd'hui, est dirigé par ce que je viens de dire là, des démissionnaires, c'est-à-dire le gouvernement Samba plutôt, qui continue toujours à gérer les affaires courantes alors qu'il y a des urgences dans notre pays. Et c'est ce qui n'est pas bon. Moi, j'ai trouvé que non, les politiciens congolais doivent être conscients de ce qu'ils veulent, de penser aussi à la misère de la population, de penser au massacre qui se passe à l'est de notre pays, et se dire que non, écoutez, au lieu d'avoir un gouvernement éléphantesque, parce qu'on nous a parlé, donc il faut au moins 50 ministères, alors c'est de vous dire que non, allons-y dans le format de 25 ou 30 ministères, comme ça, on peut gérer, et puis on peut faire des économies, pour que les gouvernements puissent avoir le moyen. Parce que, comme nous l'avons dit dans le premier élément qu'il y a à débattre par rapport au défi que notre Premier ministre pourra faire face, nous avons dit que, effectivement, la Premier ministre ne peut pas aller sur le terrain pour se battre là-bas. Mais il doit mobiliser tous les moyens nécessaires et mettre ça à la disposition des forces de défense et de sécurité. Alors, avec un gouvernement très réduit, je pense bien qu'on aura un matelas d'argent suffisant, justement, qui nous permettra de faire face à ceux-là qui veulent bien prendre une partie de notre pays, à ceux-là qui sont venus, et justement pour, en tout cas, piller nos richesses. Voilà, c'est ça qui m'a poussé un peu de penser à cela. Regardez un peu la première ministre qui est là. Je pense, à mon sens, qu'elle ne devrait même pas travailler dans un hôtel 5 étoiles. Le pays est en guerre. Il y a la crise. Alors pourquoi l'installer là-bas? À mon sens, je pense qu'on pouvait prendre un ministère. On l'installerait là-bas et elle pourrait, en tout cas, consulter tous ces gens-là qui veulent bien être dans le gouvernement. Mais quand vous les logez là-bas, vous voyez ce que ça va sortir comme facture? Si elle-même passe nuit là-bas et elle a tous ses services, tous les bureaux qui tout autour de lui, pendant combien de temps? Il faut manger, boire, tout ça. La facture, là, ce sera très salé. Dans un pays en guerre. Non, prenons conscience, s'il vous plaît. Ça, j'en appelle aux politiciens congolais. Soyez des conscients et non des inconscients, s'il vous plaît. Ayez pitié de nos frères et sœurs qui sont en train de mourir au quotidien. Les enfants sont décapités, les femmes sont violées. Donc, il y a une partie de notre territoire qui est sous la botte de l'ennemi. Mais prenons conscience, comme ce fut le cas pour nos parents, nos papas, merci. En 60, quand ça ne marchait pas, ils se sont mis debout à l'unisson.
Merci Monil Foboso, Madame Aimé Manyongo, Vital Kamerhe, à l'issue de sa rencontre avec la nouvelle Premier ministre, a affirmé ceci. Nous pensons que notre pays, avec ses ressources naturelles et humaines, si nous donnons la chance de gouverner à Madame Souminois, sans beaucoup d'interférences, il va apporter des changements. Fin de citation. Et comment vous entrevoyez la suite, Madame Aimé Manyongo, avec cette guerre entre les leaders des partis politiques, entre les autorités morales? Vous voyez la Première ministre travailler sans beaucoup d'interférences, comme le souhaite Vital Kamerhe?
Le souhait de l'honorable Vital Kamerhe, c'est le souhait de tous les Congolais et majoritairement de toutes les femmes de la RDC. C'est de laisser à Madame Souminois le main libre de pouvoir se mettre devant ses responsabilités, prouver de quoi elle est capable. D'autant plus que c'est une grande première, c'est une première dans notre pays d'avoir une femme comme chef de gouvernement. Moi, j'aimerais qu'on puisse laisser Madame Souminois mettre à profit son expertise, son parcours au profit du peuple congolais pour qu'on puisse l'évaluer en tant que Congolaise, en tant que femme et en tant qu'acteur politique. Qu'on lui mette pas de plomb dans les ailes pour l'empêcher de voler plus haut parce que son profil nous donne confiance. Nous avons tous les moyens, toutes les ressources sont à notre disposition. Et il suffit d'une ferme volonté politique et aussi d'une certaine marge de manœuvre considérable de la part
du gouvernement ou de ses alliés politiques ou de sa famille politique pour que Mme Soumina jette un regard différent sur la question de la RDC. Nous, nous croyons que la RDC est déjà sur les rails. Il ne faudrait pas qu'on arrive à la dérailler. Aujourd'hui, Mme Soumina fait face à une problématique de la gestion des ambitions des gens qui ont toujours gouverné notre pays. Est-ce que c'est une exclusivité? Est-ce qu'on doit toujours procéder par ces temps-là qu'on est en train de gaspiller le moyen et le temps qui pouvaient servir à autre chose pour ramener la paix ou stabiliser le cadre peut-être de notre pays sur le plan économique, sur le plan social? Et ce retard est en train de trop peser sur le gouvernement, sur le problème de la guerre, sur la situation économique qui se détériore au jour le jour. Moi, je pense que l'idée de M. Kamere, la volonté de M. Kamere, c'est la même volonté que nous partageons. Comment pouvez-vous imaginer un pouvoir qui ne se préoccupe pas des urgences? On est en train de dilapider les moyens vers des situations qui ne rapportent rien directement à la stabilité du pays. Et encore moins pour résoudre les problèmes épineux que nous connaissons, celui de la guerre. La politique devient comme une chasse gardée qui appartient à cette personne. Si ces personnes-là ne se retrouvent pas, ne sont pas alignées, et c'est un problème, et on va encore agrandir les camps de rébellion et tout ça. Il faudrait que le sens du patriotisme, le sens de l'amour du prochain caractérise nos leaders et qu'ils acceptent à un moment de passer le bâton pour que les choses avancent. Là, moi, j'étais même en train de réfléchir plus loin, Monsieur Maté. J'ai poussé mon raisonnement plus loin. Si on ne pouvait pas également étendre, lorsqu'on va travailler sur la loi électorale cette année, qu'on puisse aussi s'étendre sur la question des mandats au niveau de la députation, au niveau des postes ministériels, pour qu'on arrive un peu à arrêter cet élan où les gens s'approprient ces postes dans le gouvernement, s'approprient de la gestion du pays comme c'était un bien privé et ne pouvaient le laisser qu'à leur mort et qu'il n'y aurait pas d'autres personnes qui ont les compétences de pouvoir gérer. Donc ici, on veut que le patriotisme passe au-devant de toutes choses et qu'on laisse à Mme Soumina le champ libre de pouvoir s'exprimer, de faire parler son expertise et avec son cœur de mère, avec son esprit de femme leader éclairée et avec le soutien de toutes les autres femmes. Je crois qu'elle peut changer la donne.
Merci, Christophe Châtelot. On sait qu'il y a des ambitions qui se sont manifestées et qui continuent à se manifester. Et pour gérer cela, il y a des tractations en cours entre les leaders des partis politiques. Est-ce que ce ne sont pas finalement les autorités morales qui vont décider sur qui sera qui dans ces gouvernements, qui va occuper quel poste? Et la première ministre ne fera qu'avaliser, n'est-ce pas, la volonté de ces autorités morales?
Oui, enfin, je ne sais pas si on peut les qualifier d'autorité morale ou ce que vous entendez par autorité morale. Ce qui est néanmoins marquant dans toutes ces discussions et ces négociations, oui, c'est surtout que l'on ne parle pas de programme. On n'est pas en train de parler de la politique appliquée. On est en train de parler de répartition de postes et d'attribution finalement de prébends d'avenir. Vos interlocuteurs l'évoquaient, la situation est gravissime dans plusieurs endroits du pays sur le plan sécuritaire. Elle est gravissime quasiment partout sur le plan social. Il y a donc vraiment des défis colossaux à relever. Et juste une petite remarque, en effet, qu'on peut regretter à juste titre, je le répète, que les choses soient claires, la passivité, l'attentisme, le silence de la communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passe à l'Est et de la responsabilité du Rwanda et des soldats qui nous ont envoyés envahir et se battre au Congo. Mais lorsque l'on voit la façon dont les autorités morales n'arrivent pas à faire le tri entre les ambitions des différents partis politiques, on peut être particulièrement inquiet sur sa capacité à régler les conflits violents et les dissensions qu'il y a, parce que les Wazalendo et les différents groupes armés dans l'est du pays ne sont pas tous sur la même ligne, loin de là. Donc tout ça est quand même particulièrement, encore une fois, particulièrement inquiétant. Je voulais juste faire une petite remarque quand on évoquait justement la communauté internationale et la responsabilité de silence de la communauté internationale ou ses intérêts cachés qu'il y aurait dans l'est du pays ou au Congo en général. Je veux juste rappeler que 80% du cobalt est chinois, que les batteries électriques sont fabriquées en Chine, et qu'après elles sont en effet achetées par les Français, par les Européens et les Américains. Si on parle de communauté internationale, il faut englober tout le monde. Aussi bien les Européens, les Français, les Américains, les Anglais et les Chinois.
Merci, merci. On prend une petite pause en écoutant Angelina de Nana Mouskouri et on revient juste après.
Volés à l'aube, je les entends qui sonnent. Et je me dépêche, je dois les rattraper. Adieu, Angelina, le ciel est en feu et je m'en vais. Ce n'est pas la peine d'en faire une affaire. D'ameuter toute la terre. C'est une table vide sur le bord de la mer. Adieu, Angelina, le ciel a tremblé. Je dois m'en aller. Les rois et les reines quittent la basse-cour. De sang bohémiennes sont entrées à la cour. Dans la salle du tourba, rien ne va plus pour moi. Adieu, Angelina, le ciel s'écroule, je te verrai plus tard. Regarde ces pirates dans la voie lactée. Sur des boîtes avec un canoncier. Les voisins applaudissent, poussent des cris de joie. Adieu, Angelina, le ciel se décolore, je dois me sauver. King Kong et les elfes vont danser sur les toits. De longs tangos typiques, tandis que de leurs doigts, des maquilleurs s'escriment à fermer les yeux de la mort. Adieu, Angelina, le ciel est trop sombre, je dois m'échapper. Les mitrailleuses crépitent, les poupées mobilisent.
C'était Angelina avec Nana Mouskouri, cette chanteuse d'origine grecque qui n'est plus à présenter. Et je rappelle que nous avons dans cette émission Monil Fobosso, il est journaliste et il est correspondant en RDC de la radio Trans-Équatoriale, une radio panafricaine. Madame Aimée Magnong, elle est coordinatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle. Elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province de Lualaba. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Les femmes qui ont choisi de travailler dans les mines artisanales s'exposent à de nombreux risques, ont averti les participants à la conférence nationale des femmes qui s'est tenue du 3 au 5 avril dernier à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga. Ces femmes, toujours selon les participants, devraient choisir d'autres activités lucratives, alternatives et moins dangereuses. Louis Watoum, le président de la Chambre des mines en RDC, appelle cette catégorie professionnelle des femmes à se tourner vers l'agriculture. Madame Aimée Magnong, vous avez souhaité nous parler de ces sujets. On peut savoir pourquoi.
Et merci beaucoup, Monsieur Maté. J'ai trouvé ces sujets pertinents et le besoin de pouvoir en parler pour porter encore plus haut. Je sais que c'est une activité qui a été très médiatisé, mais je voudrais aussi qu'on puisse y revenir dans cette émission pour souligner les faits importants sur lesquels nous aimerions insister, parce que à l'issue de cette conférence, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Et nous mettons en place un comité de plaidoyer pour le suivi de toutes ces actions afin d'aboutir à des résultats, parce que nous n'avons pas travaillé pour juste travailler et crier, mais on veut que qu'il y ait un écho de ce que nous sommes en train de faire. Donc la conférence sur les alternatives socio-économiques à l'exploitation artisanale par les femmes, cette conférence a visé beaucoup plus à faire une analyse et présenter quelques activités alternatives au secteur minier et partager l'expérience de ceux qui le font déjà, ceux qui ont réussi dans les activités alternatives, et voir comment susciter l'intérêt et aboutir à la sortie des femmes des sites miniers artisanaux. On sait que les femmes qui travaillent dans ces sites, elles sont exposées à beaucoup des conditions en termes de questions d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Cette exploitation artisanale ne ramène pas beaucoup de moyens à la femme et celle-ci travaille vraiment dans des conditions qui sont très précaires, et il était temps qu'on puisse réfléchir et voir comment trouver des solutions. Nous avons trouvé la pertinence d'aborder cette question aussi parce que nous estimons que le secteur minier, c'est vraiment un secteur qui est la plus grande contributrice par ses activités. Elle contribue largement au beau budget de l'État, et le secteur artisanal également contribue au budget de l'État, même si c'est à faible pourcentage, qui varie entre 5 et 10% je crois, mais c'est quand même une contribution. Et donc les acteurs dans ce secteur devraient être regardés de la même manière que ceux-là qui rapportent quelque chose à l'assiette fiscale de l'État. Et donc c'est cette catégorie de femmes que nous jugeons vulnérables, qui ont besoin d'un accompagnement avec tout ce qu'il y a comme difficulté autour de cette exploitation, qu'on puisse réfléchir comment les faire partir de ces secteurs précaires, là où elles sont en train de s'exposer, d'exposer leur santé, leur famille, et de penser à créer, à mettre en place des mécanismes d'accompagnement pour des activités alternatives à cette exploitation.
Justement, Madame Mme Manyongo, qu'est-ce qui est envisagé concrètement pour permettre à ces femmes d'accéder à ces activités alternatives?
Les femmes ont la volonté, mais il y a plusieurs défis à relever dans cette optique des activités alternatives, parce que, vous savez, l'exploitation minière, quand bien même, elle présente beaucoup de dangers, beaucoup de difficultés pour avoir de quoi mettre sur la dent pour les femmes, mais c'est aussi une activité qui leur permet de gagner très rapidement quelque chose. Par jour, une femme ne peut pas manquer 5, 10, 15 000, ça dépend de ce qu'elle fait, selon qu'elle est nettoyeuse, laveuse des matières, ou elle est négociante, elle touche un peu plus, et ce qui lui permet d'avoir quelque chose d'une manière assez rapide pour subvenir aux besoins de son ménage. Alors, les activités alternatives, ce sont d'autres activités économiques, comme l'agriculture, qui est principalement la branche fondamentale qui permet de bien migrer du secteur minier, qui est un secteur dont les mines sont épuisables, et migrer vers le secteur agricole, où il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'opportunités, surtout dans les cadres, dans le contexte actuel de la RDC, qui a ratifié les accords de la zone de libre-échange économique africaine, où il y aura suppression des barrières tarifaires économiques avec les autres pays africains qui viendront chez nous. Il faudrait que les Congolais puissent aussi se positionner par rapport à ça. Et nous pensons que le secteur agricole, c'est un secteur fondamental qui mérite d'être accompagné pour que les femmes, cette masse laborieuse des femmes qui travaillent dans le secteur minier artisanal, puissent accéder à des moyens, à des équipements, afin qu'elles puissent faire ces activités comme alternative au secteur minier. Mais il y a aussi un problème qui se pose dans ces domaines-là. Non seulement les femmes n'ont pas l'argent pour faire cette agriculture à grande échelle, pour qu'elle soit rentable et répondre aux besoins économiques de notre pays, mais également il y a un problème d'instabilité quant à l'accès à la terre. Les femmes n'ont pas l'accès à la terre. Toutes les terres que les femmes peuvent exploiter, surtout dans la partie sud, ici dans l'espace Katanga, il y a une prédominance du code minier sur les droits des fermiers, sur les droits des terres, sur les terres agricoles. Si vous êtes en train d'exploiter votre terrain avec des activités agro-pastorales, mais dès qu'on découvre qu'il y a un filon qui passe par là,
et directement, il y a un permis qui tombe de Kinshasa, qui atterrit, on vous délocalise, et généralement sans une indemnisation qui soit équivalente de ce que vous avez déjà fait comme investissement en termes d'embléage des terres, de souches et tout ça, la préparation de la terre, ça demande énormément de moyens que les femmes font au prix énorme, au prix de leur vie, je peux même dire, mais on vient de le localiser en leur donnant juste quelque chose qui ne sert pratiquement à rien. C'est là que dans les recommandations, nous avons parlé de mener des démarches au même titre que le secteur minier qui est couvert par un cadastre minier, mais qui est aussi le cadastre agricole, où même s'il y a des filons qui passent par là, quelle que soit leur teneur, quel que soit le minerai, l'intensité, la qualité qui regorge ces terres, qu'on laisse, qu'on fasse des réserves pour l'exploitation agricole, ce qui permettrait aux femmes qui sont dans les secteurs miniers, même si elles migrent vers les secteurs agricoles, elles ont une certaine stabilité.
Merci.
Pour développer ces secteurs.
Merci, Monique Bosso. Votre point de vue par rapport à cette problématique?
Oui, moi je pense bien que ce secteur, à mon sens, n'est pas vraiment bien régularisé. Donc, il faudrait qu'on cherche à régulariser ce secteur d'abord, parce que, comme chez les artisanaux, moi j'ai été en Ituri, j'ai vécu dans certains sites miniers où il y avait beaucoup plus de l'or et que les artisanaux étaient en train d'exploiter. Mais il y avait tout dedans, il y avait tout, il faut reconnaître, l'immoralité, l'alcool, une vie, donc je dirais qui n'était pas vraiment normale. Et puis il faut voir le travail, un travail de dur labeur, pourquoi? Parce que ces femmes devraient, comme les autres exploitants artisanaux, creuser, fouiller, il faut entrer sous la terre, il faut dire, donc c'était pas facile du tout. Alors, la vie qu'on menait là-bas, avec des maladies, je pense même qu'il fallait, pour le respect de la femme, pour leur santé, pour leur hygiène, on a bien pensé, à mon sens, de les orienter ailleurs pour qu'elles fassent autre chose que ce qu'elles peuvent faire dans ces secteurs. Moi, je suis d'accord avec certaines résolutions qui ont été prises dans ces sens-là. Parce que ce qu'on a vécu là-bas, je me suis dit, ici, c'est vraiment le Golgotha. Ici, c'est vraiment Capharnaüm. Ici, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de cela. Donc, la femme, c'est une maman. Elle a droit au respect et non à l'immoralité, à certaines choses qui se passent. Pour ceux qui sont sur le terrain, je ne peux pas dire que c'est partout ailleurs de la même manière, mais ce que moi, je veux plus, c'est ce que moi, je déplore. Et j'ai dit que non, pour de tels genres de choses, les femmes ne peuvent pas les faire. Il faut les épargner de cela, les orienter, faire autre chose qui peut leur rapporter d'argent que de les emmener dans ces secteurs-là où il y a plus de confusion, il n'y a pas vraiment une bonne organisation et qui les chapeaute. Donc quelqu'un peut se réveiller comme ça, il dit c'est lui le chef là-bas et puis c'est tout le monde qui doit les respecter. Vous trouvez quelque chose là-bas, vous venez, vous lui donnez sa part. Si vous ne donnez pas, il peut vous chasser au besoin par force. Donc vous voyez un peu ça. Donc ce sont des choses que il ne faut pas vraiment laisser la femme à qui nous devons beaucoup plus de respect en tant que maman évoluer dans un secteur qui n'est pas vraiment facile du tout pour elle en tant que maman.
Voilà. Merci. Merci Christophe Châtelot. On va finir avec vous cette émission. Vous comprenez qu'il y a d'un côté ces souhaits, n'est-ce pas, d'aider ces femmes à pouvoir connaître une certaine conversion sur le plan professionnel. Mais de l'autre, on fait face aux problèmes d'accessibilité à ces activités alternatives. Et à votre avis, c'est quoi la solution, Idoine?
Je ne sais pas quelle est la solution, d'autant que la RDC est un pays continent. Je pense que la situation, les situations foncières d'accès à la terre sont différentes en fonction de l'endroit où on se trouve. Le fait est, j'étais allé à Lubumbashi, Kolwezi, il n'y a pas si longtemps. Le domaine des mines artisanales est aussi un secteur qui, derrière, j'ai l'impression apparemment un petit peu anarchique, et aussi finalement très organisé, dans le sens où ce sont des intérêts, ce sont des richesses qui en effet ne rapportent pas alors juste prix à l'État congolais, mais qui enrichit énormément de monde. Je pense que ça ne révélait aucun secret que de dire que les cercles du pouvoir précédent et actuel tirent aussi profit de cette activité, de ce secteur artisanal. Donc comment après sortir, partir du moment où ça génère de l'argent, comment sortir les gens de ce secteur, c'est pas facile. L'agriculture n'est pas non plus une activité aisée. C'est aussi une activité qui demande des techniques, qui demande des moyens. Il faut un véritable investissement pour l'irrigation. Il faut aussi penser aux débouchés de la production agricole. On connaît les difficultés logistiques et d'infrastructures routières ou ferroviaires de RDC. Il ne s'agit pas uniquement de cultiver et de produire des fruits, des légumes ou des céréales ou quoi d'autre. Il faut après le commercialiser et j'ai la sensation aussi qu'il faudrait travailler aussi sur toute cette question de distribution et d'organisation de la chaîne de valeur de la terre jusqu'à l'assiette du Congolais qui mangera la pomme de terre ou la tomate locale.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui avez accepté, n'est-ce pas, d'y participer, Madame Mema Nyong, Monsieur Monil Febosu et Monsieur Christophe Châtelot. Merci aussi à William Lungamba qui était à la technique avec la participation de Christian Lumumba, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Rue d'amour des Koffi Olomidé et on se retrouve le samedi prochain. La bolingo es la...